Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
À l'ouest du diocèse de Montauban se trouve Moissac et sa splendide abbatiale romane, un joyau architectural, mais pas seulement, puisque Moissac est depuis des siècles une étape importante sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Ici passent chaque année plus de 15 000 pèlerins, des marcheurs, des chercheurs de Dieu ou de sens, qu'il faut accueillir, écouter et éclairer. Diocèse de Montauban, au cœur des chemins de Saint-Jacques. C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour. Deuxième émission donc du trimestre faite depuis le diocèse de Montauban. Pour rappel, voilà, opération un peu spéciale qu'on essaye de faire comme ça une fois par trimestre pour être au plus près des trésors de la vie chrétienne de notre région. Aujourd'hui, pour nous parler des chemins de Saint-Jacques à Moissac, il y a du monde et du beau monde, comme presque chaque jour. Sœur Marie-Laetitia, vous êtes religieuse de la communauté Marie-Mère de l'Église, bonjour.
Bonjour.
Sœur Marie-Florence Marie, vous êtes également religieuse de cette communauté et plus spécialement responsable de la Maison des Pèlerins, bonjour.
Bonjour.
André Vérac, vous êtes prêtre du diocèse de Montauban et vous êtes à la retraite et grand marcheur devant l'Éternel, bonjour.
Bonjour.
Aydin Bates, vous êtes responsable ici d'un gîte d'accueil des pèlerins, gîte privé qui s'appelle Ultreia, et vous êtes d'origine irlandaise. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous n'avez pas d'accent, en tout cas on l'a pas entendu encore, mais ça va venir. Et André Blossier, vous êtes hospitalier ici à Moissac. Bonjour.
Bonjour.
On va donc parler ce matin chemin de Saint-Jacques. Alors c'est une bonne chose avant les vacances, puisque j'ai lu en préparant l'émission, ça m'a guère surpris que le pic de fréquentation, c'est évidemment pendant l'été. Je le disais, ici passe à peu près 15 000 pèlerins ou même plus chaque année. Peut-être on va commencer tout simplement par avoir un petit goût de ce voyage qui est le chemin, en vous demandant à l'un ou l'autre de nous raconter au moins les prémices de cette aventure que vous avez vécue un jour. André Vérac, vous me disiez en préparant l'émission que vous vous êtes mis en chemin donc il y a quelques années de cela, si je ne me trompe pas c'était en 2000, pour faire un point sur votre vie. Voilà, vous vouliez faire un bilan de votre vie. Racontez-nous peut-être en quelques mots les débuts de cette aventure.
C'est vraiment par hasard que j'ai découvert le chemin. Puisque oui, c'est vrai, je voulais faire un temps fort, une halte, j'avais la cinquantaine, il me semblait qu'il était temps de faire un bilan quant à ma vie passée et par rapport à l'avenir qui s'ouvrait devant moi, à 50 ans. Et donc j'avais prévu de faire cela dans l'Hogar, dans un ermitage à Tamaracet. Et puis voilà que des événements politiques en Algérie ont fait que ça n'a pas été réalisable, et donc ce projet s'est transformé en marche sur le chemin de Saint-Jacques, depuis Envelé jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, Roncevaux.
Donc vous avez mis combien de temps ?
Un petit mois.
Vous avez mis un mois, vous avez bien marché, puisque c'est combien de kilomètres par jour, vous me disiez ?
30, 35.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu, je ne sais pas, dans quel état on est quand on se décide à cette aventure, le jour où on débarque du Puy-en-Velay, pour ceux qui peut-être ne l'ont pas fait, ou pour ceux qui l'ont fait, ça leur évoquera des souvenirs. À quoi ressemble le père André Vérac avec son sac à dos ? Était-il tremblant au départ du Puy-en-Velay ?
Non, parce que je suis un cas. Je suis toujours un cas. Dans ma vie, j'ai souvent été un cas. Je m'excuse de dire cela, puisque au Puy-en-Velay, c'était le lundi de Pâques, je me rappelle, de l'an 2000. Et il y avait normalement prévu la messe du pèlerin à 7h du matin. Et comme c'était lundi de Pâques, tout était fermé, pas de messe. Donc Monsieur l'abbé est parti sans messe. Il est allé simplement au bistrot boire un café.
Oui, il y avait d'autres pèlerins. Est-ce que vous pouvez nous décrire peut-être les débuts au départ du Puy-en-Velay ?
J'étais apparemment tout seul à ce moment-là.
Donc cette aventure, vous l'avez réitérée, puisque vous êtes parti après, vous m'avez dit, 7 fois sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Vous êtes allé aussi à Rome et à Assise. Vous avez fait de plus de 16 000 kilomètres. Peut-être en quelques mots, pour ceux qui auraient envie de se lancer cet été, évidemment, on y reviendra. Mais est-ce qu'il y a un avant et un après chemin de Saint-Jacques ? Qu'est-ce que ça représente comme aventure, vous diriez ?
Oui, c'est un ensemble en tout cas. Et c'est vrai que ça a été pour moi une étape importante de commencer le chemin sans avoir le projet d'aller jusqu'au bout, en 2000. Mais une fois que j'étais à Saint-Jean-Pied-de-Port, Roncevaux, je me suis dit, mais l'année prochaine, il faudra bien que tu termines quand même ce chemin. Donc j'ai voulu terminer le chemin. Et là, j'ai pris goût vraiment au chemin.
Et aujourd'hui, vous qualifieriez quoi d'éternel marcheur du coup ou...
c'est presque un besoin, c'est vrai. Surtout quand j'étais en activité pastorale, c'était mon moment de congé que je prenais là. Donc c'est une façon de faire le vide pour moi et de me recentrer peut-être un peu sur l'essentiel et d'oublier les problèmes de chaque jour.
On y reviendra. En tout cas, ça arrive même à des prêtres de faire leur crise de la cinquantaine. Hein. Donc, Aydin Bates, vous êtes responsable donc, de ce gîte Ultreia. On en parlera un petit peu plus tard. Je vous taquine, évidemment. Hein. Vous m'excuserez. Vous êtes d'origine irlandaise. Même question. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous raconter comment le chemin est entré dans votre vie ?
Mais c'est ça, on vit sur le chemin, ça passe devant la porte et on le vit tous les jours avec les gens de passage. Nous avons quitté l'Irlande suite au chemin que mon mari avait fait en 2003. Il a traversé toute l'Espagne en 2003 et là on a décidé pour plusieurs raisons différentes, pour la version courte de l'histoire, mais on a tout abandonné en Irlande pour venir nous installer sur le chemin de Saint-Jacques pour aider des gens, pour bien accueillir, pour les supporter, pour les... Ouais.
Pour les accompagner.
Pour accompagner sur
vous,
le chemin.
Vous-même, vous avez fait le chemin, du coup, après
moi,
votre...
que des petits bouts. J'ai beaucoup de soucis de santé. C'est lui qui est le marcheur et qui continue. Ça nous gêne parfois quand les gens disent « Vous avez fait tout le chemin ». Mais c'est quoi tout le chemin? Parce que pour un Français, c'est le puits jusqu'à Saint-Jacques. Mais pour un Allemand, c'est de Munich ou ailleurs. On a eu des Polonais, on a eu des gens de loin. C'est de marcher et pour la plupart des gens, c'est de continuer à marcher. C'est pas seulement une fois.
Est-ce que le chemin de Saint-Jacques est connu en Irlande? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire
oui.
de la notoriété? Est-ce que c'est des choses dont on parle dans les paroisses,
connu,
dans les communautés?
C'est très bien connu, mais c'est le Camino espagnol qui est bien connu dans le monde anglophone. C'est pas vraiment le chemin en France. Donc c'est pour ça, si en France on a des Australiens, des gens de Nouvelle-Zélande, d'Amérique qui font les chemins en France, ils ont déjà fait les caminos, les chemins en Espagne avant de savoir, de découvrir qu'il y a des chemins à découvrir en France.
On dit que la grande tradition, c'est de partir de chez soi. Il y a des gens qui partent de chez eux depuis
oui.
l'Irlande, ça
oui,
arrive.
Oui, exact. Oui, oui. On peut bien commencer à Dublin, dans le quartier de Dublin,
ah bon?
Dans le quartier de Saint-Jacques, le portail de Saint-Jacques. En effet, c'est le portail de l'usine de Guinness.
Et ça compte quand on traverse la Manche, ça fait un pèlerin crédible, même s'il prend le shuttle.
Même il y a 3 ans, ils ont inauguré une portion de 25 km près du Cork, qui est bien reconnue maintenant, parce que de là, on peut faire 25 km. Et puis en Espagne, c'est quoi le Camino anglais? Non, c'est pas l'anglaise.
Il y a
Non, pas le nord. Il y a un autre chemin, pardon, qui a que 75 km. Et donc, si on ajoute...
Peu importe, c'est pas grave.
Si on ajoute le 25 km en Irlande et les 75 en Espagne, là, c'est les 100 km faits tout ensemble.
D'accord. Donc les chemins de Saint-Jacques, je le rappelle, qui fêtent cette année leurs 20 ans donc, au classement patrimoine mondial de l'UNESCO. On va peut-être zoomer un petit peu plus sur Moissac, pour tous ceux qui ne connaissent pas Moissac. Je ne sais pas si c'est l'une des autres, peut-être des sœurs qui va contribuer à nous présenter cette ville et ce lieu. Moissac, c'est donc en quelques chiffres, c'est 13 000 habitants. C'est une ville forte d'une arboriculture importante, puisque j'ai compris que c'était 30% de la surface ici. Première destination touristique du Tarn-et-Garonne et donc à peu près 18 000, enfin entre 15 et 19 000 pèlerins qui passent ici chaque année. Comment vous présenteriez la belle ville de Moissac, sœur Florence Marie?
Donc Moissac s'est construit autour de l'abbatiale et donc très vite, avant l'an 1000, c'était un lieu d'accueil de pèlerins. Et au départ, c'était des pèlerins qui venaient d'Irlande, d'Angleterre pour aller à Rome ou à Jérusalem.
D'accord, au départ, on n'allait pas vers les chemins de Saint-Jacques.
Pas plus que ça. Et en fait, ils arrivaient à Bordeaux en bateau, ils remontaient la Garonne et de Moissac, ils marchaient pour rejoindre la Méditerranée et éventuellement reprendre un bateau pour Rome.
Donc ici, dès le XIe siècle, il y a donc une abbaye.
Voilà, oui.
Hein, donc abbaye romane dans laquelle
même le 9e siècle et après
dans laquelle vivait une communauté bénédictine, c'est
voilà,
ça, pendant des siècles,
qui donc a été très très riche au niveau de l'accueil des pèlerins. Il y a un quartier Saint-Jacques à Moissac, une église Saint-Jacques.
Alors à partir de quand est-on venu ici pour aller à Saint-Jacques, puisque
dès le départ, dès que on a retrouvé les reliques de Saint-Jacques de Compostelle,
Donc, un peu plus tard, du coup, c'est ça?
Voilà, au moment de la Reconquista en Espagne, c'était un moyen aussi de re-christianiser l'Espagne en envoyant des pèlerins.
Donc une abbaye donc, qui est affiliée à la puissante abbaye de Cluny. Au XVIIe siècle s'arrête ici la vie bénédictine. La Révolution française a troublé aussi cette vie monastique, si j'ai bien compris. Et puis avec l'essor à nouveau du pèlerinage donc au XXe siècle, cet essor fabuleux, puisqu'on dit que c'est aujourd'hui plus de 300 000 pèlerins en 2017 qui sont arrivés à Saint-Jacques-de-Compostelle, et les chiffres ne cessent d'augmenter. Probablement qu'on a vu à Moissac arriver à nouveau des pèlerins. Vous, la communauté ici, n'est pas ici depuis très longtemps, si j'ai bien compris.
Alors nous, on est arrivés en 2003 ici, et une des missions que l'évêque nous avait confiées à l'époque était de s'occuper de l'accueil des pèlerins de Saint-Jacques, de pouvoir chanter nos offices à l'abbatiale pour que la beauté liturgique soit de nouveau... rythme de nouveau la vie de l'abbatiale.
Qu'y avait-il avant que vous arriviez, en fait?
C'était une église paroissiale.
Les pèlerins se perdaient dans la ville et l'église était juste ouverte.
Il y avait déjà des l'église était ouverte avec la messe quotidienne. Et nous, eh bien, on offre les laudes, les vêpres à l'abbatiale, et puis les autres offices sont chez nous et tout le monde peut y venir.
Alors peut-être, avant qu'on fasse une première pause, racontez-nous peut-être un peu l'ambiance dans la ville, parce que 15 000 pèlerins par an, ça fait quand même du monde. C'est-à-dire qu'en fait, les Moissaguais, c'est comme ça qu'on dit, sont habitués en fait à voir des gens avec des sacs à dos dans la ville. Racontez-nous un peu ça, sœur Marie-Laetitia.
Alors c'est vrai qu'à Moissac, on constate très clairement deux saisons. Il y a une saison qui commence à partir de début avril, on va dire Pâques, et puis jusqu'à 1er octobre, mi-octobre. Et après, on rentre dans l'hiver où on voit beaucoup moins de monde, voire plus personne.
Alors, pendant la haute saison...
Pendant la haute saison, alors bon, il y a un peu touristique, mais on a toujours des pèlerins. On voit toujours des gens avec des sacs à dos dans un endroit de la ville, surtout autour de l'abbatiale. Et puis se diriger
vers... Ils ne passent que par l'abbatiale ou ils se promènent aussi est-ce que le chemin passe par le centre-ville ici?
Alors oui, justement, ça c'est un projet qui a été développé ces dernières années pour que l'idée c'était que les pèlerins puissent visiter et rester dans Moissac pour découvrir la ville, parce que il y avait eu ce constat qu'ils arrivaient, ils vont direct au gîte et ils ne redescendent plus. Donc il y avait un très peu de pourcentage de pèlerins qui visitaient le patrimoine. Et donc ça a été toute une démarche de réflexion qui a été faite avec la municipalité, l'Office du tourisme, il y a 3 ans, pour l'ouverture de la Maison des pèlerins.
Voilà, pour varier aussi les plaisirs architecturaux, puisque j'ai découvert en arrivant ici qu'il y avait une particularité, c'est que la ville de Moissac a été en partie détruite, c'est ça, dans les années 30. Et donc vous avez un centre-ville qui est art déco, c'est assez... C'est assez contrasté avec votre abbatiale. Peut-être pour finir, avant qu'on fasse cette pause promise, c'est la seule étape de Saint-Jacques-de-Compostelle du diocèse. Y en a-t-il d'autres? Est-ce que vous pouvez nous éclairer, sœur Florence-Marie?
Alors, en fait, le diocèse, les pèlerins peuvent rester 3 jours sur le diocèse, dormir à Lauzerte, qui est à peu près à 25-27 kilomètres d'ici.
Donc ça, c'est au nord, c'est ça?
Au nord. Ensuite, il y a Moissac, et puis après, en gros, 24 km à pied au Villard.
Donc ça fait une cinquantaine de kilomètres qui passent par chez vous.
Et après, on arrive dans le Gers.
Voilà, on va faire une première pause et puis on vous retrouve après pour parler un petit peu plus de la manière dont vous essayez d'accueillir et d'entourer ces pèlerins. On compte sur vous pour nous raconter quelques beaux fioretti, peut-être, joie et peine de cet accueil ici à Moissac.
Qu'est-ce qui te pousse? Quelle est la secousse qui a décidé pour toi de ce chemin? La source vive, celle qui te motive, a-t-elle jailli d'un seul coup sous ta main? Pour que ta quête un jour te projette tout seul, sac au dos, en humble pèlerin. Pour que ton rêve aujourd'hui soulève autant de poussière en mon pauvre jardin. La route est longue. Faut avoir du cœur. Le temps n'est plus de faire mes bagages. bien que je sache que rien ne m'attache et que je pourrais suivre aussi la même voie. C'est dans ma tête que toujours secrète se trace une route où je m'en vais parfois. La marche lente, c'est une serpente, je tangue et chemine le long des coteaux. Mais mon voyage n'est fait que de mirage, où toi, pèlerin, prête-moi ton manteau.
Présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église, ce matin, diocèse de Montauban, au cœur des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, pardon. Si vous nous prenez en cours de route, je vous rappelle que nous sommes depuis Moissac, voilà, dans le diocèse de Montauban, comme l'indiquait le titre de cette émission, avec autour du plateau Sœur Marie Laetitia, qui est religieuse à la communauté Marie-Mère de l'Église, Sœur Florence Marie également, le Père André Vérac, qui est prêtre du diocèse de Montauban à la retraite, Aydin Bates, qui est responsable ici d'un gîte qui s'appelle Ultreia, d'origine irlandaise, et André Blossier, qui lui est hospitalier à la Maison des Pèlerins, ici à Moissac. Alors après cette introduction, cette mise en bouche avec vos histoires respectives, et puis ce coup de zoom sur Moissac, pour, comment dire, ça mériterait plus de détails, mais il faut venir, même si on n'est pas pèlerin, visiter l'abbaye de Moissac et la belle ville de Moissac. J'aimerais qu'on parle un peu plus de l'accueil que vous faites aux pèlerins. Et peut-être d'abord, pour donner un petit peu de chair au sondage, voilà, c'est quelque chose qui est cher au cœur des journalistes, parce que nous, on voit défiler beaucoup de sondages, mais on ne peut pas toujours aller sur le terrain. J'aimerais que vous nous parliez un peu des pèlerins qui viennent ici, parce que souvent, on lit des études assez contradictoires sur les pèlerins. J'en ai trouvé deux. L'une qui dit que près de 40% des pèlerins marcheraient pour des raisons religieuses, bref, un gros tiers, les autres pour des raisons religieuses et culturelles, et les autres uniquement culturelles. Et puis, on voit d'autres études qui nous disent qu'au contraire, on va dire, les pèlerins à l'ancienne qui marchent pour faire un chemin spirituel, on va dire, explicite, ne seraient qu'une minorité sur le chemin. Qu'est-ce que vous nous diriez, Aydin Bates, vous qui êtes ici depuis 2005 et qui avez ouvert ce gîte en 2007, quelle est votre expérience? Qui sont ces gens qui viennent et pourquoi marchent-ils?
Je suis d'accord plutôt avec les chiffres plus bas que ceux qui disent, qui le font. Il ne faut pas dire. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas quand même sur le chemin. Il n'y a pas des questions comme ça. Mais de ce qu'on voit, pour ceux qui le font pour des raisons religieuses, c'est un petit pourcentage. Mais il y a d'autres qui font plutôt des spirituels plutôt que religieux. Il y a beaucoup de personnes qui... La grande majorité, c'est tout simplement marcher. Mais pour beaucoup, entre eux, ils trouvent une autre raison sans vraiment chercher. Ils commencent pour marcher pour quelque chose de physique, peut-être marcher avec des amis ou marcher toute seule après des douleurs dans la vie ou pour chercher qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. Tant de raisons différentes comme ça. Mais ils trouvent certains esprits parmi d'autres personnes, un esprit de ce qu'ils font. La simplicité de la vie quand c'est « j'ai que ce qui est dans mon sac à dos » qui est toujours trop lourd. Toujours, même pour les gens vraiment expérimentés. Mais je n'ai pas des stress normaux de la maison. C'est les douleurs de la marche, la météo, c'est trop chaud, c'est trop mouillé.
Donc si ça n'est pas d'abord pour des questions religieuses, est-ce que vous diriez que dans le fond, quand même, la plupart des gens qui marchent, il y a des vraies questions existentielles
au départ,
une majorité en tout cas.
C'est ça. Ils n'ont pas démarré avec des grosses questions, mais ils trouvent.
La plupart, ils vont pour faire de la randonnée et ils trouvent des questions sur le chemin.
Certains trouvent quelque chose comme ça. Ouais.
Je ne sais pas qui veut intervenir. Peut-être un Père André Vérac, vous qui êtes un marcheur avéré, et puis puisque vous êtes prêtre, est-ce que ça peut... Enfin, comment dire, il n'y a pas de bons et de mauvais pèlerins. Il ne s'agit pas de juger, évidemment, les gens qui se mettent en route. Hein. Ça peut être aussi le début d'une démarche religieuse et spirituelle que de se laisser questionner par ce chemin, non?
Disons qu'il y a un état d'esprit lié à ce chemin. Je pense qu'on part avec l'a priori que celui qu'on va rencontrer est intéressant quelque part. Ou a des choses intéressantes à nous dire ou à vivre avec nous. On ne part pas, comme dans la société, avec un a priori de concurrence ou de jugement qu'on peut avoir sur l'autre. Et je crois que cet état d'esprit fait que, de fait, on s'ouvre plus facilement à l'autre que sont nos frères, et en même temps, peut-être, à des questions plus profondes dans notre vie, jusqu'à Dieu. Pourquoi pas ?
André Blossier.
Et ça, c'est l'esprit du chemin.
Vous qui êtes hospitalier ici, qu'est-ce que vous diriez sur cette question ? Si ce n'est pas un chemin religieux, c'est un chemin existentiel ? Enfin, ça devient un chemin existentiel ?
C'est principalement un chemin existentiel. L'aspect religieux concerne effectivement une minorité en France. Par contre, les étrangers, de ce que j'ai vu en Espagne, les pays du Sud, hein, les Espagnols, les Italiens, les Coréens, peut-être l'Amérique du Sud, certainement. L'Amérique du Nord, les États-Unis aussi, le font de façon plus religieuse que les Français, de façon très, très marquée. Par contre, en France, bon, il y a effectivement des exemples. Bon, il y a une partie religieuse, c'est une évidence.
Alors, une fois que ces pèlerins sont arrivés, donc il y en a 15 000 qui passent par an. Je ne sais pas s'il y en a 15 000 ou plus, hein, qui passent par l'abbatiale. Quel est le projet un peu ici à Moissac ? J'ai cru comprendre que couvent, paroisse, mairie, tout le monde travaillait un petit peu ensemble pour essayer de, comme je le disais en introduction, d'accueillir, d'écouter, d'éclairer peut-être aussi tous ces pèlerins. Racontez-nous un peu les projets qui se vivent ici. On va commencer avec vous, sœur Marie-Laetitia.
Et en fait, il y a eu trois, j'allais dire, comme vous disiez, la municipalité, la paroisse, en lien aussi avec la communauté, et puis l'office du tourisme, avaient chacun un désir et pas forcément les mêmes motivations pour pouvoir accueillir plus de pèlerins, permettre que les pèlerins passent plus de temps à Moissac.
C'est quand même des occasions rares que voilà. Ce type d'institution, je ne sais pas si on peut dire institution, travaille ensemble.
Voilà, c'est ça qui est une très grande force sur Moissac, c'est-à-dire qu'il y a eu un accord ensemble, il y a eu il y a eu des réunions très concrètes à la mairie, des sœurs, les prêtres et puis la municipalité, l'office du tourisme, pour savoir qu'est-ce qu'on fait pour les pèlerins. Les uns avaient des motivations économiques, forcément, il faut que la ville vive. Les autres avaient des motivations religieuses et spirituelles, nous-mêmes, etc. Mais on a trouvé quelque chose de commun pour, et vraiment dans une très bonne entente, pour essayer d'aller dans le même sens.
Alors, qu'est-ce qui, si alors, vous devez résumer le projet qui est...
Alors, le projet au début, ça a été, il y a beaucoup de pèlerins, les accueillir au narthex. Un des premiers soucis, par exemple, c'était, comme on disait tout à l'heure, beaucoup de pèlerins ne visitent pas. Comment les faire qu'ils visitent un peu plus le patrimoine ? Alors, on a accueilli dans le narthex. Donc ça a commencé l'année de la miséricorde. On a accueilli dans les narthex, et une des choses que les hospitaliers faisaient, ils disaient, on vous propose, on garde vos sacs, puis vous allez visiter le patrimoine. Ce qui fait qu'au bout d'un an, il y a une augmentation de 11% de visiteurs, ce qui était pour la ville énorme. Voilà. Et puis après, nous avions proposé pour l'année de la miséricorde, puisque notre dimension, c'était d'évangéliser.
Donc l'année de la miséricorde, je rappelle, hein, c'est cette année qui avait été déclarée par le pape François, je crois qu'il y a, il y a deux ans. Hein,
exactement.
Dans toute l'Église universelle, une année pour proclamer le visage de Dieu révélé aux chrétiens, qui est un Dieu de miséricorde.
Voilà, exactement. Et puis Moissac était une porte sainte. Donc il y a eu le passage de la Porte Sainte, et donc nous avons organisé avec les sœurs un chemin spirituel où tous les soirs, librement, les gens pouvaient venir. Alors c'était pas une visite, hein, c'était un chemin spirituel, le passage de la Porte Sainte.
Alors qu'est-ce qui est proposé comme accueil ici ? Je ne sais pas si vous deviez nous détailler, il y a un pôle accueil chrétien, un pôle accueil privé, il y a un accueil municipal, s'organise un peu ?
Il y a un accueil de la paroisse qui se fait dans l'église abbatiale, pour tout le monde, et puis il y a un accueil qui avait été voulu par le curé à cette époque-là, qui était propre aux pèlerins. qui était vraiment un accueil des pèlerins. Donc, tout simplement, bah, c'était. Alors, ça ne veut pas dire que des touristes venaient et étaient rejetés, mais voilà, c'était vraiment propre aux pèlerins. Donc, c'est pour ça que les hospitaliers venaient essentiellement pour ça. Et que c'était important que des hospitaliers viennent, parce qu'ils ont connu le chemin, ils accueillaient, etc. Et ça a été ce qu'ils voulaient, si vous voulez, qui a préparé la maison des pèlerins.
Donc, à vous entendre, en fait, la plupart des gens qui pèlerinent et qui arrivent à Moissac ne passent pas forcément par les offices. Ou ne sont pas accueillis dans un lieu d'accueil explicitement chrétien.
Non, pas du tout. Ah non, non, elle est tout à fait, complètement.
Etc. Non.
Nous, notre but, c'était que justement, on s'était posé la question, on se dit, c'est quand même dommage, parce qu'en fait, si vous voulez, que la dimension de l'évangélisation était une question que nos évêques qui ont leur diocèse sur le chemin se posent depuis très longtemps. Et puis, en disant, il y a vraiment un lieu d'évangélisation. Donc, comment nous, chrétiens, sur ce lieu-là, et d'autant plus à Moissac, évangéliser davantage. Alors, moi, j'avais trouvé ça très important parce qu'en plus, tout à l'heure, on parlait, beaucoup de pèlerins partent comme ça en quête de sens, mais vous voyez, quand ils ont marché 15 jours depuis le puits en Velay, ils ont le cœur ouvert pour parler du bon Dieu. Et c'est impressionnant, cette ouverture, voilà, on n'a pas besoin d'argumenter très vite, vous voyez, on arrive à avoir une dimension spirituelle.
Alors vous nous donnerez quelques fioretti après. André Vérac, vous vouliez dire quelques mots.
Oui, il faut bien comprendre que l'Église, en tant qu'institution, n'est à rien pour la restauration de ce chemin. C'est né vraiment à côté de l'Église. En dehors de l'Église, ce retour du chemin de Saint-Jacques. Et alors l'Église, dans sa structure, dans les diocèses et les paroisses, tout ce qu'on veut, ont essayé de voir comment ils pouvaient éventuellement être au service aussi de ces gens qui défilent.
Et oui, puisque donc en 20 ou 30 ans, on est passé de quelques milliers à plus de 300 000, je le disais. Je sais que maintenant, il y a même un évêque référent pour la partie française des chemins, qui est le Monseigneur Hayet, je crois, évêque du diocèse de Bayonne-Lescarolleron.
Oui, je crois que c'est vrai. Mais moi, je me suis battu quand j'étais en responsabilité dans le diocèse, justement pour qu'on ne structure pas trop. Puisque c'est né en dehors de l'institution ecclésiale, laissons libres les pèlerins, ne leur imposons pas un catéchisme. Et alors, je me suis battu contre des évêques, hein,
parce vous êtes battu contre
des évêques. Révolue, qui est une catéchèse du Puy jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port.
On fera une autre émission peut-être sur les batailles autour du chemin. Sœur Florence-Marie, peut-être un petit peu plus dans le détail. Donc, quand le pèlerin arrive, quand il est à la maison donc, des pèlerins, donc, qui s'est ouverte donc, en mai, hein, je crois, de cette année, voilà, magnifique lieu à côté de l'abbatiale, un grand lieu de paix avec un beau jardin devant. Dommage, on n'a pas pu se mettre à l'extérieur et entendre les petits oiseaux, mais voilà, il faut venir définitivement. Vous me disiez, bon, d'abord, on prend soin d'eux tout simplement. Racontez-nous peut-être un peu les étapes classiques. Vous leur enlevez le sac à dos, vous leur donnez à boire.
Alors, pour arriver à une discussion spirituelle, c'est vrai que souvent, eh bien, il faut avoir une proposition matérielle, concrète. Donc, pour vivre en tant que chrétien, il faut aussi s'occuper du corps. Donc, c'est pour ça que la première chose, c'est de permettre aux pèlerins de déposer leur sac pour pouvoir visiter léger l'abbatiale, le cloître. Donc ça, c'est le voilà. Il y a des casiers pour pouvoir déposer leur sac en toute tranquillité. Ensuite, on leur tamponne leur créanciale. La créanciale, c'est comme un petit passeport qui permet de se souvenir de toutes les étapes qu'ils ont pu vivre.
Voilà, on n'a pas l'image, mais André Blossier nous sort sa créanciale. Voilà, on la prendra en photo pour la mettre sur Internet. Allez-y, continue, ma sœur.
Et puis après, on leur propose à boire et l'idée, c'est de pouvoir prendre le temps de discuter avec eux, d'échanger avec eux. Et je dirais, notre motivation, ben, c'est arriver à une rencontre et à la rencontre avec le Seigneur si c'est le moment pour eux. Parce qu'en fait, chacun pourra rencontrer le Seigneur quand ça sera le moment. Et donc, si nous, on peut être là, eh ben, c'est bien. Si ça se passe ailleurs, ça se passe ailleurs. Mais
est-ce qu'il y a des temps d'écoute, je ne sais pas, vous
oui, parlez des hospitaliers. En fait, il y a deux, trois hospitaliers qui sont à la maison des pèlerins, qui font le petit côté matériel hein, de tamponner, mais c'est surtout d'abord, asseyez-vous, écoutez, vous voulez boire, ah, vous avez un petit bobo, montrez-nous, ben, à conseiller, informer, etc. Et puis prendre contact avec le gîte si nécessaire pour l'amener au gîte, si vraiment il ne pouvait plus marcher, des choses comme ça. Là, les hospitaliers sont là pour 15 jours bénévoles et ils se donnent vraiment à fond. Et puis nous, les sœurs, on essaye d'y passer.
Voilà.
Alors j'aimerais que vous nous donniez quelques fioretti avant qu'on fasse une deuxième pause, enfin pour finir cette deuxième partie d'émission. On va prendre un tout petit peu de temps, si le temps passe. Des fioretti, non pas pour être indiscret, hein, mais peut-être pour montrer, toucher du doigt un petit peu ce qui se vit sur le chemin et puis les fruits que ces gens portent, même s'ils viennent pour diverses motivations. Qu'est-ce qui vous revient ? Peut-être on va commencer par des histoires qui vous ont marqué, qui pour vous sont des histoires bouleversantes, qui disent en fait la beauté de ce que les gens cherchent ou portent sur ce chemin, et puis peut-être du fruit que ça a pu porter dans votre vie. Aydin Bates, est-ce que vous pouvez commencer peut-être en nous rapportant une histoire qui, si vous deviez en garder une depuis que vous êtes là depuis 2007, et qui vous aide aussi peut-être à continuer à avoir la responsabilité de ce gîte, Ultreia, et à le faire avec cœur?
Il y a tant d'histoires, désolé, je n'ai pas pensé à tout, aux meilleures histoires, mais vraiment, récemment, il y a 3 semaines, on avait 2 grandes histoires dans une journée, dont un qui était un monsieur qui, sa femme était morte en janvier, je crois, et ils avaient ce projet de faire le chemin de Saint-Jacques ensemble, et puis elle est morte, mais il a décidé de faire le chemin tout seul. Mais c'est quelqu'un qui a déjà fait les chemins plusieurs fois. Mais cette fois, il marche avec des cendres de sa femme. Il porte les cendres de sa femme. Il a déjà distribué une certaine partie à Mont-Saint-Michel avant de prendre le chemin de Saint-Jacques pour aller jusqu'à Saint-Jacques. Et donc, tout simplement, il marche avec sa femme pour retrouver la vie un petit peu. Il a dit, par exemple, il m'a regardé en train de... Bien sûr, j'ai pas mal de ménage à faire. Il m'a regardé en train d'utiliser le lave-linge. Et il m'a dit, ça, c'est une des choses que je dois apprendre à faire maintenant. Des petites choses du quotidien que c'est embêtant soudainement. Il doit redémarrer sa vie tout seul, mais elle sera toujours là. Mais c'était une bonne chose pour lui et pour elle qu'il pouvait faire cette grande aventure.
Et l'autre histoire qui vous revient?
L'autre histoire, le même jour, c'était une journée, il y avait quelque chose de plus compliqué le même jour, mais bon. L'autre, le matin, il y avait, je crois que c'était un Américain qui a décidé de faire le chemin du puits, sachant que son frère allait mourir. Donc, au lieu de changer les vols et tout ça, il a commencé, et oui, depuis qu'il a commencé à marcher du puits en Velay, le frère est mort. Et quelque part, peut-être parce que c'est anglophone chez nous en plus que francophone, il a commencé à parler avec mon mari et il a pleuré et il a pu sortir comme sœur Marie-Laetitia a déjà dit. Ça fait déjà quelques semaines sur le chemin et quelques semaines depuis que le frère est mort et il peut parler un petit peu, sortir les affaires. Donc on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont des histoires différentes, mais les histoires ne sortent pas. Mais à table, ça se voit. Les gens ne demandent pas pourquoi vous...
Oui.
C'est rare.
Il paraît que c'est une règle sur le chemin de ne pas poser de questions indiscrètes.
Pourquoi vous faites le chemin? Parfois, ils les disent « je fais parce que », mais ce n'est pas une question qui s'est posée. Ça et aussi, qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est quelque chose qui ne compte pas. C'est plutôt les ampoules, le sac à dos, quelles erreurs vous avez fait dans la journée.
C'est parfois une meilleure manière d'entrer en relation que de se poser.
Donc, on a des gens de tout âge, de tout niveau social différent. Mais tout le monde est pareil.
Qu'est-ce que vous diriez, vous? Est-ce que pour vous, votre travail, c'est quoi? C'est de faire en sorte que matériellement, ils soient accueillis le mieux possible? C'est d'y mettre de la tendresse, de l'écoute, même si ce n'est pas un lieu d'accueil estampillé chrétien? Comment vous expliqueriez la manière dont vous essayez de faire votre métier et de vivre cet accueil?
C'est ça. C'est un business, mais on n'est pas ici pour ça. C'est pour aider, de parler, d'aider des gens. Tout simplement, si c'est des moyens physiques pour les dire où il faut aller acheter une nouvelle chaussure, pour les aller aux urgences et aller là, rester là, traduire en français pour les aider parfois, pour les aider pour les prochaines étapes. Et comme ça, parfois, ils ont besoin de tout simplement de parler ou un câlin ou même un petit câlin de notre chien. Ça compte aussi pour beaucoup.
André Blossier, vous aviez une autre histoire peut-être qui vous a marqué. Est-ce que vous pouvez nous la partager et puis nous dire pourquoi? Est-ce qu'elle peut-être elle vous a touché, si c'est pas indiscret?
Oui, j'avais Quand j'ai fait le chemin tout seul en 2013, à la sortie de Navarinx, après le pot d'accueil par le curé de Navarinx, qui est décédé depuis, je buvais un coup. J'avais en face de moi un Américain de 78 ans avec sa fille, la cinquantaine. Et puis, je ne parle pas trop d'anglais, mais enfin, on arrivait à comprendre deux, trois mots. Et puis, le lendemain, chacun fait sa vie. Le lendemain, sur le chemin, je vois le monsieur, le papy, exsangue complètement, fatigué, épuisé. Je pouvais faire le 112 pour appeler les secours sans problème. Donc je lui ai donné, j'ai toujours une bouteille, une boisson bien connue dans mon sac, je ne citerai pas la marque. Je lui donne, il me l'a bu vite fait, bien fait, comme on dit. Il s'est requinqué, il s'est reposé, il s'est requinqué. En fait, les Américains, ils ont beaucoup de cartes bleues, mais ils n'ont rien dans leur besace. Ils n'ont rien à boire, ils n'ont rien à boire avec eux.
On n'est pas là pour faire le procès des Américains.
Non, tout à fait. Et donc, le lendemain, je les ai revus le lendemain. On se suivait, on se doublait mutuellement, puis on est arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port, puisqu'on était à Navarinx deux jours avant. Et puis avec un interprète canadien
venez-en en fait, pourquoi vous racontez cette histoire?
Parce qu'elle est très importante, pourquoi les Américains faisaient ce chemin. Et en fait, ils faisaient ce chemin-là parce que la personne la plus âgée avait perdu sa femme et les deux sœurs de sa femme, donc les trois femmes, étaient décédées de la même maladie dans un laps de temps très très court. Donc ils faisaient le chemin, ils faisaient vraiment un chemin très...
un chemin de deuil.
Il faisait un chemin de deuil. Quand on mangeait aussi avant Saint-Jean-Pied-de-Port, donc à Saint-Jean-le-Vieux, donc on se suivait, puis on a mangé dans le même café. Dans le même café, on s'est retrouvés. On mangeait un petit peu et puis boire. Et le monsieur, il a tenu à me faire écouter un enregistrement de sa femme qui chantait l'hymne américain à une victoire de son équipe de basket dans un grand stade. Donc ceci 10 ans ou 15 ans plus tôt.
Alors pourquoi cette histoire vous a touché? On va avant qu'on fasse une deuxième pause. Et puis peut-être comment vous essayez de vivre votre travail d'hospitalier.
Ça m'a impressionné parce que d'abord je les ai un petit peu accompagnés, juste sur deux étapes quelque part. Et ça m'a impressionné parce que ils faisaient vraiment le chemin pour... ils avaient quand même quelque chose, ils ne faisaient pas le chemin pour rien. Hein, et là, je me suis dit, moi, je le fais pour quoi? Enfin, peut-être pour ça, en fait.
Et comment est-ce que vous essayez d'accueillir alors les pèlerins qui passent à la maison des pèlerins ici? Je ne sais pas, vous diriez la même chose qu'Aidin Bates, le faire simplement et mais avec amour ou...
On essaye de le faire au mieux, de le faire avec amour, de donner le maximum de renseignements, bien sûr. À l'accueil à Moissac, on leur propose pas le gîte, pas le couvert, mais on leur propose de garder les sacs. Et on tamponne les créanciales, bien évidemment. On leur explique ce qu'on peut visiter sur Moissac. Et puis, quelquefois, le pèlerin ne reste que 10 minutes. Quelquefois, on reste une heure à discuter de tout et de rien. Hein, et puis, après, ils repartent parce qu'ils se reposent.
Allez-vous jusqu'à leur faire des câlins, comme disait Aidin Bates?
Non, quand même pas.
Non. Voilà, on va faire une deuxième pause musicale et puis on va vous retrouver après pour une partie un petit peu plus courte puisqu'on a été un peu long dans cette partie, mais il le fallait pour peut-être quelques digressions spirituelles sur le chemin de Saint-Jacques, manière d'aider certains peut-être à soit à se replonger dans ce qu'ils ont vécu, soit à se décider à un jour chausser leurs chaussures de marche et à partir de chez eux ou de quelque autre bout du chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église, ce matin, donc diocèse de Montauban, au cœur des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Si vous nous prenez par hasard en cours de route, je vous rappelle que nous mettons en coup de zoom donc, sur cette belle ville de Moissac, particulièrement sur son abbaye et l'accueil qui s'est ouvert récemment, la Maison des Pèlerins, avec autour du plateau deux religieuses de la communauté Marie-Mère de l'Église, sœur Florence-Marie et sœur Marie-Laetitia, le père André Vérac, qui est un prêtre du diocèse, Aydin Bates, qui est responsable ici d'un gîte Ultreia, et André Blossier qui est hospitalier à cette maison des pèlerins. À la fin de cette émission, je voulais donc que l'on parle un peu plus du chemin. Le propos est d'essayer de comprendre en fait ce qui se passe. Alors ceux qui sont familiers de lecture sur le chemin de Saint-Jacques ou qui ont entendu différentes émissions ne seront peut-être pas surpris, mais je pense qu'il y a toujours des gens qui découvrent et il est précieux d'essayer d'entrevoir ce qui se vit sur ce chemin. Tout simplement, André Vérac, vous vouliez, votre expérience est que ce chemin est une métaphore de la vie. Alors c'est quelque chose qu'on entend souvent. Est-ce que vous pourriez préciser cela et peut-être y donner un peu de chair?
Oui, ça c'est très traditionnel. C'est-à-dire que le pèlerinage, il y a un temps de préparation avant, il y a le pèlerinage lui-même, et il y a l'arrivée et l'après-pèlerinage. Alors avant, on peut dire que c'est quand nous étions dans le sein maternel. Hein. C'est ça l'image de notre vie. Le parcours, c'est le chemin de la vie de tous les jours, hein, ici-bas, sur cette terre. L'arrivée, ce sera le point ultime, le jour où nous aurons à vivre ce passage que sera notre mort. Et après, on verra.
Donc, ça, c'est, comment dire, est-ce que d'une certaine manière, quand on marche, on finit par prendre conscience de cela? Est-ce que c'est une des premières vertus du chemin? Est-ce que s'il y a beaucoup de gens qui partent, enfin, entre guillemets, de la part d'un prêtre, ce n'est pas très étonnant d'entendre ça, mais j'imagine que les gens ne commencent pas à marcher en se disant, tiens, c'est à l'image du pèlerinage que je vis sur Terre, etc. C'est...
D'abord, il faut partir. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens me dire, ah, j'aimerais bien faire le chemin. Un jour, je le ferai. Mais me dire « demain, je m'en vais », ça, c'est tout à fait différent. Partir, c'est important. Ça rejoint quelque chose qui est très biblique dans la Bible. Abraham, s'entend dire par Dieu, « quitte ton pays, pars ». Il a levé les piquets de sa tente, rassemblé femme, enfant, le troupeau, et il est parti dans l'inconnu.
Mais en quoi est-ce une démarche spirituelle, le fait de quitter ou de partir?
On se déracine quelque part, on se décentre. On s'en remet à quelqu'un d'autre ou on laisse faire l'Esprit. Pour moi, c'est l'Esprit Saint hein, qui nous guide. Mais dès qu'on part comme ça, apparaît la fragilité de ce que nous sommes. On comprend très vite, dès les premières étapes, que si on n'a pas trop l'habitude de marcher, il y a des ampoules, il y a des risques de tendinite, il y a des questions de chaleur, de pluie, de mauvais temps, et tout ça, on perçoit que nous sommes très vulnérables.
Le chemin remet à sa place, quelque part.
Remet à sa place.
Et tout le monde, en fait, hein,
oui.
C'est ça.
D'autant plus qu'avant, il a fallu préparer le sac. Il a fallu partir qu'avec l'essentiel. Enlever tout ce qui était secondaire, parce que le sac était trop lourd. Ou si on ne l'a pas fait au départ, on le fait dans la première semaine. Hein. On renvoie par la poste tout ce qu'on n'a pas besoin. Hein. Donc tout ça, c'est une base quand même spirituelle et pour une réflexion plus profonde. Hein, parce qu'on fait confiance, on s'en remet peut-être tel que nous sommes face aux questions de notre vie. Hein.
Donc si on ne s'en remet pas à la Providence, pour un certain nombre de gens, on s'en remet au hasard de la vie ou à la vie tout court.
Bien sûr. Oui, oui.
Aydin Bates, vous avez votre mari donc a fait le chemin. Vous disiez que vous l'aviez fait par morceaux. Aujourd'hui, donc vous êtes ici, vous occupez de ce gîte Ultreia. Est-ce que c'est une métaphore qui vous parle comme ça, la vie comme un pèlerinage? Est-ce que ça a été votre expérience sur le chemin de Saint-Jacques aussi ou...
C'est ça, oui, c'est quelque chose d'important pour nous depuis des années maintenant.
Est-ce que de fait, de faire le chemin, ça vous a aidé à en prendre conscience, le fait qu'on était un peu en pèlerinage sur la Terre?
C'était pour mettre des choses, pour voir les priorités dans la vie. On a changé ce qu'on faisait en Irlande, c'est ça, on a tout abandonné là pour venir à quelque chose de plus simple, pour travailler ensemble et Et oui, c'est ça, pour aider des gens, tout simplement, encourager. Et c'est, pour moi, il y a des gens qui me demandent, parce que vous n'avez pas fait ce tronçon du chemin, ils pensent qu'ils sont mieux que moi parfois, mais moi, je pense tout simplement que c'est le chemin de tous les jours.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le chemin tous les jours? C'était justement ma deuxième question. C'était qu'on imagine que quand on a fait le chemin, c'est vrai qu'il y a toujours un peu un halo, entre guillemets, qui entoure les gens qui ont fait le chemin. Et on a l'impression, toute proportion gardée, hein, on parle souvent des gens qui font les... Je ne sais pas si la comparaison est heureuse, mais comme je me suis lancé, je vais jusqu'au bout. Vous savez, il y a beaucoup, de plus en plus de gens qui font ce qu'on appelle des NDE, Near Death Experience, l'expérience de vie après la mort. Et on dit que quand ils reviennent, ils sont fondamentalement différents. Alors, le chemin n'est peut-être pas une expérience de mort imminente, mais en tout cas, on sent souvent, pour les gens qu'on connaît, que ce sont des gens qui ont changé. Oui. Vous, est-ce que vous arrivez à le vivre au quotidien? Est-ce que le fait de voir tout le temps des pèlerins chez vous, ça vous aide à vivre votre quotidien en ayant conscience que la vie avance et que vous marchez vers un but?
C'est ça, ça change tous les jours. Ouais, et c'est exactement ça. Il y a beaucoup de gens qui doivent se préparer pour ce qu'ils vont faire après le chemin, pour ceux qui ont pu prendre un mois, deux mois, trois mois pour quitter, disons, la vie normale, pour faire le chemin.
Mais quand vous dites que votre quotidien est un chemin, qu'est-ce que vous voulez dire par là, en fait?
C'est le chemin de Saint-Jacques tous les jours.
Voilà, c'est le chemin matin, midi et soir.
C'est ça, ouais. La journée est longue. Ouais.
Est-ce que l'un ou l'autre a un commentaire sur cet aspect pèlerinage? Je ne sais pas, sœur Marie-Laetitia.
Moi, avec un petit peu l'expérience des pèlerins qu'on rencontre, c'est vrai, comme disait aussi le père, c'est beaucoup de personnes réalisent sur le chemin et vont peut-être dessus, le prennent en tout cas, l'empreinte, par rapport au rythme de la vie. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'il y a un tel rythme, j'allais dire, de frénésie de la vie, que les gens à un moment se disent, mais c'est quoi le sens de la vie si c'est toujours pour courir, pour courir, pour courir? Et donc, à un moment, il se passe un moment dans leur étape où ils ont envie de faire une coupure.
En tout cas, c'est souvent ce qu'on lit. On dit qu'il y a des grandes crises de sens.
Et alors, moi, ça m'a beaucoup frappé justement dans l'accueil qu'on a fait dans le Nartex de l'abbatiale ces deux dernières années, où on accueillait. Enfin, il y avait à la fois des pèlerins mais des touristes. Et du coup, c'était aussi l'occasion pour des touristes de découvrir qu'est-ce que c'était. Et en effet, ça donnait le désir par rapport à ce thème-là, par rapport à ces problématiques, à des simples touristes d'aller sur le chemin, parce qu'en fait, à quoi ça sert la vie si c'est pour courir l'argent? Et en fait, on se rend compte qu'on est rattrapé un jour par la maladie, les couples éclatent, les familles éclatent, et en fait, on n'a pas compris sa vie. Vers quoi marche-t-on? Et donc, ce qui est très impressionnant, c'est que les gens qui se mettent en route sur le chemin découvrent le vrai sens de la vie. En fait, ils se laissent prendre par la nature, par Dieu. Quand il y en a qui arrivent à mettre du spirituel et du transcendant dans leurs termes, dans leur expérience, mais ils se rendent compte que, la vie est autre chose. Et alors, moi, il y a des témoignages qui m'ont frappé très souvent, c'est nous sommes dans un monde qui n'est plus humain. Et le chemin leur permet de retrouver cette humanité, ce sens de l'humain, en se redécouvrant eux-mêmes, en fait, tout simplement avec le rythme de la marche.
Alors, la transition est parfaite. J'aimerais qu'on finisse, Père André Vérac, en parlant. Vous m'avez dit, en préparant l'émission, que vous vouliez parler un peu de la prière par les pieds. Alors, parlez-nous de cette prière par les pieds. Peut-être vous pouvez nous expliquer, vous qui avez donc pèleriné. Je vous rappelle, au début de l'émission, on a expliqué, vous avez fait 7 fois le chemin de Saint-Jacques et d'autres, plusieurs milliers de kilomètres. Ça veut dire quoi, prier par les pieds? C'est-à-dire que vous avez découvert une nouvelle ou une autre manière de prier aussi?
Oui, disons que quand on marche longuement, et qu'on répète cette marche et que ça dure, durer, c'est important, hein, persévérer, on arrive à une intériorisation. Des pieds, on passe au cœur facilement, d'une certaine façon. Et alors, je crois qu'à ce moment-là, on est capable d'ouvrir les yeux, les oreilles, l'écoute de l'autre, la beauté de la nature. On revient à des choses basiques, des choses simples qui peuvent parfois paraître naïves, mais qui sont vraies, qui sont le vrai, quelque part. Tout ce qui est beau est bien, mais cette beauté, elle est établie sur du vrai.
On retourne au réel, quelque part. On entend souvent des choses comme ça aussi. On est dans des vies modernes où on a du mal à être dans le réel, en fait, dans la contemplation du quotidien. Mm-hmm. C'est votre expérience.
Ça, c'est sûr. Oui. Et pour moi, et témoigne que ça se fait aussi chez d'autres. Mais pour moi, sûr. quand je suis à la retraite, j'ai vécu ce passage de la vie active à la retraite, là, depuis 2-3 ans. Bon. C'est vrai que j'ai eu du mal à vivre ce passage. Parce que, surtout pour nous, prêtres, l'activité pastorale, c'est tout. Hein. Et je me suis surpris à murmurer quelque part. Comme dans la Bible, le peuple hébreu, qui est sorti de l'esclavage d'Égypte, qui commence à murmurer dans le désert parce qu'il regrette les oignons qu'ils avaient là-bas, esclaves en Égypte. Et je me dis, mais toi, tu commences aussi à murmurer par rapport au diocèse, par rapport à l'activité pastorale, par rapport aux évolutions d'aujourd'hui, aux nouvelles orientations. Je me suis dit, André, là, tu es en train de faire fausse route quelque part. Il est temps que tu décroches, que tu lâches prise et que tu cherches la paix sur ce chemin. Demande la grâce de la paix.
Et en quoi le chemin vous a aidé peut-être à faire ce chemin intérieur, justement, c'est peut-être pour finir.
Parce que, bon, il y avait certainement toute une expérience, une richesse, l'expérience des 18 années de marche derrière. Et c'est vrai qu'assez naturellement, j'ai pris du recul. Et de fait, je me suis recentré peut-être plus pour moi sur la foi et tout ce que ça veut dire au niveau de la foi et de la confiance. Hein.
Eh ben, merci beaucoup d'être venu. Enfin, c'est pas vous qui êtes venu, c'est moi qui suis venu. Merci de votre accueil plutôt à Moissac pour parler des chemins de Saint-Jacques de Compostelle et donc ce qui se vit ici dans le diocèse de Montauban. Merci beaucoup. Je préciserai peut-être une dernière chose avec l'approbation de Sœur Florence Marie. Le diocèse propose une semaine par an de marcher sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle avec le service des pèlerinages. Peut-être un dernier mot pour finir là-dessus.
Voilà, le diocèse a commencé en 2012 un chemin à partir de Moissac et chaque année, il fait une semaine de marche. Donc, il y a quoi, une trentaine de personnes. Donc là, maintenant, ils sont en Espagne. Ils vont bientôt arriver.
Voilà, donc si vous n'osez pas vous lancer tout seul, vous pouvez vous lancer avec le diocèse. Il suffit donc d'appeler le diocèse de Montauban. Je n'ai pas l'adresse du site internet, mais vous trouverez ça bien facilement. Et si par hasard, vous n'avez pas internet chez vous, eh bien, vous appelez le standard de la radio. On se fera un plaisir de vous donner les coordonnées nécessaires. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h. Ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.